Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs. Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Le ministre de la Religion invite les musulmans à s'inspirer du premier Muharram. Des vols directs relient Chongqing en Chine à Jakarta. Le consulat général d'Indonésie au Cape Town discute de la réalisation de films commerciaux indonésiens et sud-africains. Le vice-ministre indonésien de la Défense renforce son partenariat stratégique avec la Turquie. Le mont Semeru est entré en éruption avec des éruptions observées jusqu'à 1 km de distance. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. Le ministre de la Religion Yakut Khalil Kumas a invité les musulmans d'Indonésie à utiliser l'esprit du nouvel an islamique en Muharram 1446 Hijriya comme source d'inspiration pour l'auto-évaluation et l'amélioration. Rapporté par Antara samedi, il a déclaré que le nouvel an hijrien était basé sur l'événement de la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de Mecque à Médine. Selon Yakut, la Hijriya n'est pas seulement un changement de lieu, mais aussi un symbole de lutte et de la sacrifice dans la recherche de l'approbation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed, selon lui, avait réussi à construire une société juste et prospère à Médine malgré les difficultés rencontrées. Yakut a déclaré que la lutte du prophète Mohammed avait inspiré les ulémas à lutter pour l'indépendance et à faire progresser la nation. Il espère également que le nouvel an 1446 de la Hijr pourra apporter bénédiction, paix et bonheur à toute l'humanité. Un vol samedi matin hors local a décollé de la ville de Chongqing, la Chine du sud-ouest, à destination de Jakarta, transportant 174 passagers, marquant le lancement d'une route directe de passagers entre les deux villes. Signalé dimanche par Antara, opéré par la compagnie aérienne d'Indonésienne CityLink avec des Airbus à 320, le nouveau service propose deux allers-retours réguliers chaque semaine, programmés tous les mercredis et samedis depuis l'aéroport international de Chongqing, Jiangbei. Selon Helu, qui gère les routes aériennes internationales, à l'aéroport international Jiangbei de Chongqing, le vol direct de 6 heures peut faire gagner plus de 3 heures aux passagers qui devaient auparavant faire une escale. Actuellement, l'aéroport international de Chongqing-Jiangbei exploite 27 liaisons aériennes internationales et régionales avec plus de 150 vols par semaine vers les villes telles que Seattle, Londres, Paris, Madrid et Sydney. Le consulat général de la République d'Indonésie au Cape Town, en Afrique du Sud, a discuté de la coopération dans la réalisation des films commerciaux entre les deux pays en préparation du marché populaire suivi du festival de films indonésiens au Cape Town. Comme l'a rapporté Antara samedi, le marché populaire et le festival de films indonésiens au Cape Town se tiendront chacun du 9 au 11 novembre 2024. Le consul général indonésien de Cape Town, Tudi Ono, a déclaré que la collaboration à la réalisation du film était une partie importante de la commémoration et de la célébration des 30 ans de relations diplomatiques entre les deux pays cette année. Lors de la discussion initiale sur le film, l'équipe indonésienne était dirigée par la productrice Wendra Lingatan et les assistants de la maison de production Summerland. Pendant ce temps, l'équipe sud-africaine est composée de Makis Lemon, PDG du Cape Town Film Studio de 2014 à 2024, et producteur et réalisateur Rafik. La discussion a eu lieu avec le consul général indonésien au Cape Town, accompagné du consul économique Setio Hargianto et du membre de la Chambre des représentants indonésienne Wulan Sutomo Yasmin, qui a également facilité la mise en place d'une coopération cinématographique indonésienne-sud-africaine. Le vice-ministre indonésien de la Défense, Muhammad Herindra, a effectué une visite bilatérale en Turquie jeudi pour rencontrer le vice-ministre turc de la Défense, Bilal Durdali, et un certain nombre de PDG de l'industrie de défense turque. Rapporté par Antara samedi, il a déclaré que l'Indonésie considérait la Turquie comme un ami important et entretenait depuis longtemps une coopération en matière de défense. Dans une déclaration de l'ambassade d'Indonésie à Ankara, Herindra a expliqué qu'il existe de nombreuses opportunités d'élargir la coopération bilatérale en matière de défense entre les deux pays, notamment dans l'instauration d'une confiance mutuelle, l'augmentation de la capacité des forces armées et le développement futur du secteur industriel de la défense. L'ambassadeur indonésien en Turquie, Ahmad Rizal Purnama, qui a accompagné la visite du vice-ministre de la Défense Herindra en Turquie, a déclaré que la Turquie était le partenaire idéal pour développer l'industrie de défense de l'Indonésie. En plus d'être le partenaire de confiance de l'Indonésie dans les forums multilatéraux et sur les questions cruciales d'actualité, la Turquie est l'un des rares pays disposés à s'associer à l'Indonésie dans le cadre du mécanisme de transfert de technologies pour l'industrie de défense. La coopération en matière de défense et l'industrie de défense sont des secteurs prioritaires dans les relations bilatérales entre l'Indonésie et la Turquie, outre le commerce, l'énergie, la construction et la santé qui sont énoncés dans les priorités 1+4. Le mont Semeru, qui se trouve à la frontière des régions de Lumajang et Malang, à Jaffa de l'Est, est entré en éruption avec des éruptions observées à une hauteur de 1 km au-dessus du sommet ou à 4676 mètres au-dessus du niveau de la mer dimanche à 4h58 heure l'Indonésie occidentale. Tel que rapporté par Antara, Gufron Alwi, responsable du poste d'observation du mont Semeru, dans une déclaration écrite reçue à Lumajang, a déclaré que la colonne de chandra avait été observée comme étant de couleur grise avec une intensité épaisse au nord et au nord-ouest. Selon lui, l'éruption a été enregistrée sur un sismographe avec une amplitude maximale de 23 mm, et une durée de 137 secondes. Du 1er janvier 2024 au 7 juillet 2024, à 7 heures, heure l'Indonésie occidentale, il a été enregistré que le mont Semeru, qui est la plus haute montagne de l'île de Java, a connu 664 éruptions avec statut d'alerte au niveau 3. Pour cette raison, le Centre de volcanologie et d'atténuation des catastrophes géologiques a recommandé au public de ne mener aucune activité au secteur sud-est le long de Besukobokan jusqu'à 13 km du sommet au centre de l'éruption. Au-delà de cette distance, il est également conseillé au public de ne pas mener d'activité à moins de 500 mètres de la frontière de la rivière le long de Besukobokan, car il risque d'être affecté par l'expansion des nuages chauds et des coulées de lave jusqu'à une distance de 17 km du sommet. Il est également interdit aux résidents de mener des activités dans un rayon de 5 km autour du cratère sommet du volcan Semeru, car il existe un risque de jet de pierre. Il est également demandé au public d'être conscient du potentiel de nuages chauds, d'avalanches de lave et de lahars le long des cours d'eau, des vallées qui prennent leur source au sommet du volcan Semeru, en particulier le long de Besukobokan, Besukbang, Besukembar et Besuksat, ainsi que le potentiel de lahar dans les rivières, petite rivière qui est un afflux du Besukobokan. C'est tout le journal d'aujourd'hui. Voici la mise au point de la semaine, dont le titre est « Évaluant le piratage du Centre national de données temporaires, le président ordonne que toutes les données nationales soient enregistrées par sauvegarde ». Le président Joko Widodo a souligné mercredi qu'il avait procédé à une évaluation approfondie de l'incident de piratage contre le Centre national des données temporaires, ou en indonésien Pusat Data Nasional Sementara, ou abrégé en PDNS 2, survenu récemment. Dans un communiqué de presse à la région de Karawang, Java de l'Ouest, le président a souligné que toutes les données nationales devraient être sauvegardées. Oui, nous avons tout évalué. Le plus important est de trouver une solution à tout pour que cela ne se produise plus et sauvegarder toutes nos données nationales pour que si quelque chose arrive, nous ne soyons pas surprises. Et cela se produit également dans notre pays, pas seulement en Indonésie.
Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Ya.
Reporté par Antara, la société de cybersécurité Surfshark a rapporté que des incidents similaires avaient également été vécus par un certain nombre de pays développés ces dernières années, comme les États-Unis en 2004, la Russie en 2019, la Chine en 2019, la France en 2021, le Brésil en 2020, l'Angleterre en 2017, l'Allemagne en 2019, l'Italie en 2018 et le Canada en 2022. Auparavant, le chef de l'État avait présidé une réunion avec ses collaborateurs pour discuter de la gestion des cyberattaques contre le Centre national des données temporaires. Comme suivi de cette réunion, une réunion au niveau ministériel a été tenue présidée par le ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité, Hadi Cahyanto. Le ministre Hadi Cahyanto a souligné que la sauvegarde des données était une obligation qui devait être remplie par chaque ministère, institution et gouvernement régional. Grâce aux dispositions d'enregistrement de sauvegarde obligatoire, chaque ministère, institution et gouvernement local disposera d'une sauvegarde des données et des services dans le but de maintenir la continuité du service en cas d'incident similaire à l'avenir. Selon lui, le gouvernement préparera également des dispositions concernant le placement des données et des réserves en couches selon le niveau de classification des données, depuis les données stratégiques, les données limitées jusqu'aux données ouvertes. Le Centre national des données temporaires de Surabaya connaît des problèmes depuis le 20 juin. Le Centre national des données temporaires 2 a été attaqué sous forme de ransomware qui a provoqué la paralysie des serveurs de plusieurs institutions et ministères, perturbant ainsi divers services publics numériques. Le Centre national des données temporaires a été piraté à l'aide d'un ransomware de chiffrement cérébral. Le ransomware est une variante dangereuse de malware utilisée par les pirates informatiques pour verrouiller l'accès aux données des victimes et exiger un rançon pour leur récupération. Selon l'Agence nationale de cybersécurité et de code, les victimes du piratage étaient 282 ministères, institutions et gouvernements locaux utilisant le Centre national de données temporaires 2. Au moins 44 d'entre eux étaient en cours de récupération immédiate car ils disposaient de sauvegardes. Pendant ce temps, 238 autres agences sont toujours en cours de surveillance. C'est tout, la mise au point de la semaine. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 7 juillet. On commence par le 7 juillet et célébré comme la journée des bibliothécaires indonésiens. La commémoration de la journée des bibliothécaires indonésiens a été motivée par la fondation de l'Association des bibliothécaires indonésiens le 7 juillet 1973. La fondation officielle a eu lieu lors du congrès des bibliothécaires indonésiens du 5 au 7 juillet 1963 à Ciawi, Bogor. Le directeur de la Bibliothèque nationale de la République d'Indonésie a inauguré la journée des bibliothécaires indonésiens le 7 juillet 1990. La journée des bibliothécaires indonésiens vise à rappeler l'importance de la profession de bibliothécaire en Indonésie qui a fourni le meilleur du monde en matière d'alphabétisation, de bibliothèque et d'information. Le Le 7 juillet 2005, la ville de Londres est secouée par un attentat à la bombe. La tragédie des attentats à la bombe de Londres en 2005 était une série d'attentats à la bombe survenus dans le réseau de transport public de Londres en Angleterre le 7 juillet 2005, au matin, heure locale, aux heures de pointe. Au moins 56 personnes sont mortes. 4 explosions se sont produites sur 3 lignes de métro et un bus au centre de Londres. On pense que les 4 explosions ont été perpétrées par des terroristes et se sont produites juste au moment où s'ouvrait la conférence du G8 en Écosse le 6 juillet 2005. Cet incident constitue la deuxième pire attaque terroriste connue par l'Angleterre à la Seconde Guerre mondiale depuis l'attentat à la bombe contre le vol Pan Am 103 en 1988 qui a coûté la vie à 270 personnes. Le 7 juillet 2016, la Journée mondiale du chocolat a été déclarée. La Journée mondiale du chocolat est célébrée chaque 7 juillet, a été célébrée pour la première fois en 2009. La Journée mondiale du chocolat commémore l'introduction du chocolat en Europe, précisément le 7 juillet 1550. Auparavant, le chocolat fabriqué à partir de fèves de cacao n'était disponible que dans certaines régions, notamment en Amérique centrale. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Dari 1000 jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupakan nyata, mudah tapi itu senyuman yang ku suka. Sepertinya sama, tatapan gas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Lagi-lagi dia yang ku jumpanya. Malam hangat tapi ku terjaga. Rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakannya. Tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakitan air mata sia-sia. Selalu ada.
Voice of Indonesia.
Voilà la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Mon Indonésie d'aujourd'hui est intitulée « Pon 2024 devrait produire des athlètes qui battront des records nationaux et internationaux ». Le président général du Koni Central, le lieutenant général de l'armée nationale indonésienne à la retraite, Marciano Norman, espère que le Pon Aceh Sumatra du Nord 2024 sera en mesure de produire des athlètes dans divers sports qui briseront des records nationaux et internationaux. Marciano Norman, lors de la réunion de travail national du Koni à Jakarta mercredi, a déclaré que le Pon 21, qui s'est tenu pour la première fois dans deux provinces, serait bien meilleur que les Pons précédents. Il espère que les athlètes qui concurront, ils battront des records nationaux et internationaux. Parce que les athlètes Pons sont prêts, à l'avenir, à représenter l'Indonésie dans des événements internationaux simples ou multiples. Marciano a également invité un certain nombre de médias nationaux à participer pour faire du Pon un succès qui s'est déroulé pour la première fois dans ces deux provinces, non seulement avec des publications, mais aussi en émettant des critiques pour que la mise en œuvre de la 21e édition du Pon soit réussie, avec des bons indicateurs de mise en œuvre, de réalisation, d'administration et d'économie. Pon 21 Aceh Sumatra du Nord 2024 est le premier Pon à se dérouler dans deux provinces depuis la première édition du Pon en 1948 à Surakarta et la première Pon auquel participe le plus grand nombre de provinces, à savoir 38 provinces, dont la nouvelle région autonome et aussi la présence de la capitale nationale. Pon Aceh Sumatra du Nord 2024 proposera des compétitions dans 33 sports qui se dérouleront dans la province d'Aceh. Au total, 43 disciplines et 515 numéros de matchs ont eu lieu sur des sites répartis dans 10 districts ou villes. Plus tard, environ 6854 athlètes concurront à Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, Aceh du Nord, Aceh de l'Est, Benar Meriah, Aceh Central, Aceh de l'Ouest et Aceh du Sud-Est. Pendant ce temps, à Sumatra du Nord, 34 sports sont disputés avec 46 disciplines, 527 numéros de compétition sur 37 sites dans 10 districts ou villes. Environ 6281 athlètes, 3142 officiels et 5600 membres du comité d'organisation répartis à la ville de Binjai, la ville de Medan, et la région de Langkat, la région de Deli Serdang, la région de Serdang Bedagai, la ville de Pematang Siantar, la région de Toba, la région de Simalungun, la région de Karo et la région de Samosir. Pon 21 Aceh Sumatra du Nord 2024 devrait avoir lieu du 8 au 20 septembre 2024.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Les auditeurs de Voice of Indonesia, le gâteau rangi, ou ce qu'on appelle aussi le gâteau sagu rangi, est l'un des légendaires gâteaux traditionnels de Betawi. Ce gâteau est composé d'un mélange d'amidon et de noix de coco râpées qui est cuit dans un moule spécial sur une petite cuisinière et couvert pour qu'il cuise rapidement. Peu de gens savent que le gâteau rangi est l'abréviation de Digarang Wangi. Digarang signifie que la pâte de ce gâteau est cuite sans huile sur une poêle à bois. Et wangi, en français, parfumé. Chers auditeurs, ce gâteau est composé d'un mélange de noix de coco séchées râpées et de sagu tillé de palme. Ce à quoi vous devez faire attention, c'est ce que le sagu n'est pas de la farine de sagu ordinaire, mais le sagu de palme pour que le gâteau soit moelleux et délicieux à manger. Pour faire du gâteau rangi, tout d'abord, mélangez tous les ingrédients de la pâte comme la farine de sagu, la noix de coco grossièrement râpée, l'eau, le sel et remuez bien jusqu'à ce que la pâte soit friable. Après avoir bien mélangé, mettez le mélange dans le moule à gâteau rangi chauffé, cuire environ 15 minutes à feu doux. Il n'est pas nécessaire de retourner le gâteau car plus tard, le gâteau cuira parfaitement tout seul. Pour lui donner un goût sucré, au-dessus tartinez de cassonade épaissie avec de l'amidon. Une portion de ce gâteau rangi est généralement servie dans une rangée de la taille du moule à gâteau qui est fin mais ondulé au fond. Habituellement, ce gâteau coûte 10 000 rupiahs par portion. Ce gâteau rangi est plus délicieux lorsqu'il est consommé quand il est chaud, lorsque la texture du gâteau est encore croustillante, moelleuse et que la cassonade est encore bien fondue. L'extérieur de ce gâteau a tendance à être rougeux à cause de la genoa de coco râpée dans la pâte. Lorsqu'il est froid, le gâteau sera un peu dur et le sucre deviendra également plus collant. Une tasse de café amé ou de thé nature chaud complétera encore le goût sucré. Chers auditeurs, comme les collations traditionnelles en général, le sagu rangi est également vendu à l'aide de chariots mobiles. Même s'il est petit, l'équipement du chariot est assez complet, du poêle au moule à gâteau en passant par l'espace de rangement.
tanpa alasan. Berulang ingin bertemu, aku punya perasaan. Nampaknya kau tak mengerti. Tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu. Tapi dirimu tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Aku selalu menemani saat kau rapuh dan jatuh. Namun saat kau bahagia, nampaknya ku terlupakan. Tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu. Tapi dirimu tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Ingin aku jadi kekasih yang baik, berikan aku kesempatan. Oh, tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu. Tapi dirimu tak pernah sadari yang jatuh cinta. Dan aku mencintamu, tapi dirimu tak pernah sadari aku sungguh jatuh cinta. Bukan ku tanpa alasan.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. L'Indonésie en couleur d'aujourd'hui, dont le titre est le Festival culturel de Dieng. Ce festival a été annulé l'année dernière. Cette année, le Festival culturel de Dieng aura lieu du 23 au 25 août 2024. Intitulé « Le voyage », le Festival culturel de Dieng se tiendra au sein du tourisme du village Dieng Kulon, Banjarnegara, Java Central. Cette activité est attendue par les touristes locaux et étrangers car elle allie la beauté naturelle à la culture unique de Dieng. La série d'événements du Festival culturel de Dieng 2024 regorge de performances artistiques, d'expositions de micro-petites moyennes entreprises, d'actions de Dieng Lestari, de rituels de rassage de dreadlock, de carnaval culturel et de vol aux lanternes. Comme les années précédentes, pendant deux jours consécutifs, des artistes de renom et locaux sont prêts à animer la scène de jazz sur les nuages du Festival culturel de Dieng de cette année. Il y aura Andine, Marcel Siahaan, Buddy Doremi, Denis Chaknan et Stars and Rabbit qui sont prêts à faire vibrer le Festival culturel de Dieng. Le rituel du rassage de dreadlock ou chevaurette dur et grumeleux pour les enfants de Dieng est l'événement le plus attendu. Les dreadlocks que possèdent les habitants de Dieng ne sont ni artificiels ni intentionnels, mais poussent naturellement. Habituellement, ces cheveux poussent pendant l'enfance. Pour les habitants du plateau de Dieng, le nombre d'enfants portant des dreadlocks est corrélé au bien-être communautaire. Cette procession de coupe des cheveux se déroule avec un rituel de prière dirigé par les anciens. Ces enfants, au dreadlock, feront le tour de Dieng. Il existe plusieurs endroits qui sont la destination des rituels de prière, à savoir le temple Bima, le temple Dwarawati, Sendang Maero Kocho, le complexe du temple Arjuna, le temple Gatot Kaca, le cratère Sikidang, le lac Balaikambang, de la couleur et la rivière Pepe.
Ku ingat temu kali pertama kita bahagia. Lalu rasanya kita duduk dan bicara, bagaimana akhirnya bila tak berujung saling bersama. Hanya hari ini ku coba relakan cinta harus selesai. Meski belum mulai, bagaimana akhirnya bila tak berujung saling bersama. Kan ku genggam erat tanganmu, apa cukup bila hanya hari ini ku coba.
Bye.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne.
Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois, je parle d'une chanson de Isyana Saraswati. Isyana Saraswati, née à Bandung le 2 mai 1993, est une chanteuse et compositrice. Isyana a sorti son dernier ouvrage, intitulé « Aku Rindu » le 28 juin 2024. Pour Isyana, 2023 a été une année assez longue, avec de nombreuses surprises et leçons pour elle. C'est pourquoi elle a raconté diverses histoires de sa vie dans cette chanson, notamment sur les sentiments de lâcher prise et de perte. Aku Rindu est accompagné de deux carillons de piano et d'une section de cordes majestueuse, invitant les auditeurs à ressentir la profondeur de l'émotion. Cette chanson est l'ouverture d'une série de singles d'Isyana qui sortiront tout au long de 2024. Bon, chers auditeurs, voici Isyana Saraswati dont le titre est Aku Rindu. Bonne écoute!
Voice of Indonesia.
Tiada berbeda apa yang ku rasakan, tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati.
Dulu kita pernah saling memahami, segan merasa telah menyakiti. Kita terlalu perasa. Setiap katamu cermin.
Chers auditeurs, C'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.